Alors aujourd'hui,
c'est moi qui prêche. Ça commence bien les vacances, après la fin des vacances. Aujourd'hui, pour la parole d'aujourd'hui, j'ai choisi une parole qu'on ne prêche pas forcément assez régulièrement. C'est une parole assez... qu'on voit pas trop. Peut-être pour la méditation personnelle. Sachez que, nous savons que notre comportement est souvent lié à notre pensée. C'est vrai ou pas? Oui. Donc vous êtes d'accord. Ça veut dire que si nous avons une mauvaise intention, elle se dévoilera forcément. Hein? Si, par exemple, nous ne pouvons pas cacher nos sentiments de haine, par exemple. Si on n'aime pas quelqu'un, ça va se dévoiler un jour ou l'autre. Même si on essaie de cacher, c'est sûr que ça se dévoile. Hein? Ça ne peut pas être caché indéfiniment. Et puis, si nous aimons quelqu'un, ça se dévoile aussi, assez facilement. On voit que cette personne est aimant, et que, etc., etc. Alors, si nos sentiments sont peut-être... notre comportement est souvent lié avec notre pensée, avec notre sentiment. Alors, qu'en est-il, notre amour envers le Seigneur? Est-ce que mon comportement, mes sentiments, mes pensées correspondent bien avec l'amour de Dieu que nous avons? Ou peut-être, est-ce que nous avons vraiment l'amour? C'est ça que j'aimerais vous poser la question. Et puis, est-ce que nous adorons vraiment le Seigneur de tout notre cœur? Est-ce que nous adorons le Seigneur de tout notre cœur? Puisque, voilà, le Seigneur nous a créés pour recevoir notre louange. Et d'ailleurs, il est digne de recevoir toute notre louange. Avant, à l'époque de l'Ancien Testament, les gens s'agenouillaient ou s'applaudissaient au sol pour montrer leur humilité devant leur Seigneur ou devant leur Dieu. Et ce Dieu qui est digne de recevoir notre louange, comment nous, aujourd'hui, qui vivons à l'époque du Nouveau Testament, comment nous pouvons le louer? Et d'ailleurs, ce serait intéressant de revoir aussi, à l'époque de l'Ancien Testament, comment les gens louaient le Seigneur. Est-ce que vous connaissez les sacrifices que les gens faisaient à l'époque de l'Ancien Testament? Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il n'y avait pas que l'Holocauste. Il y avait 5 sortes de sacrifices que j'aimerais vous présenter ce matin. Alors pour ceux qui ont la Bible, enfin je vais lire, mais ce sera dans Lévitique. Dans Lévitique, chapitre 1, que j'aimerais vous lire. L'Éternel appela Moïse et de la tente d'assignation, donc de la tente de la rencontre. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Jusqu'ici notre lecture. Souvent, les gens me disent « Ah, c'est difficile le Lévitique. Il y a tellement de sacrifices, ça n'a rien à voir. C'est dépassé, c'est démodé. Ça ne correspond plus avec notre mode de vie. » C'est vrai, Mais il y a toujours des leçons à retenir. On peut toujours apprendre à travers aussi l'Ancien Testament. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que Dieu appelle à son peuple de pratiquer cet holocauste à l'époque de l'Ancien Testament. Les gens, enfin, ils devaient choisir les animaux sans défaut. Cela suggère aussi qu'on devait offrir un holocauste chaque fois qu'on rencontrait le Seigneur. Vous savez, il y avait des holocaustes offerts dans l'année, mais aussi, cela prouve aussi qu'on pouvait aussi offrir un holocauste si on voulait vraiment rencontrer le Seigneur à chaque fois. Au verset 4, il est dit, « Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Voilà. La personne qui a apporté l'animal devait appuyer donc sa main sur la tête de l'animal. C'était le premier acte de sacrifice. Pourquoi ? Cette imposition des mains symbolise le transfert des fautes du fidèle sur l'animal. Par sa mort de l'animal, c'est cet animal qui va payer pour les fautes de l'Israélite. Et c'est ce qu'on appelle victime expiatoire. Cet animal qui prend la faute de l'Israélite pour le pardon des péchés. L'Holocauste donc commençait par l'imposition pour le transfert des péchés et le culte commence aussi de nos jours. Cela pourrait nous dire le culte pourrait aussi commencer par la repentance. D'ailleurs, le premier message de Jésus c'était « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». La repentance est primordiale avant la rencontre avec le Seigneur. Verset 5, il égorgera le veau devant l'Éternel, les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang. Elles le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. On égorgeait l'animal devant l'Éternel, et c'est celui qui a ramené l'animal qui égorgeait. Ce n'est pas le sacrificateur qui tuait, mais c'est celui qui l'a amené. Dans ce passage, ce qui est peut-être marquant, c'est que en tuant l'animal, il doit se dire, mais c'est moi qui mérite d'être tué comme lui. Mais c'est cet animal qui prend tout mon péché à ma place. À ma place. Et que grâce à cet acte, Dieu me pardonne de mes péchés. Et ainsi, je suis sauvé. Et puis, dans Lévitique, ce qu'on peut voir, c'est que la particularité de l'Holocauste est que tout est complètement brûlé. Rien n'est laissé. Rien. Dans d'autres sacrifices, certains morceaux sont mis. Enfin, tout n'est pas brûlé. Et que certains étaient donnés soit aux sacrificateurs ou encore on partageait tous ensemble. Ici, tout est brûlé complètement. Et cela aussi peut signifier qu'il faut se donner complètement au Seigneur, renoncer à soi-même complètement devant le Seigneur. Et très important. En tout cas, à travers cet acte, ce qu'on peut remarquer, c'est que nous sommes des êtres graciés. Sans ce pardon de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et que, à travers cet acte de sacrifice, à l'époque, celui qui avait apporté cet animal, ou qui a pu, en tout cas, vivre cet holocauste, devait se sentir gracié, et puis être joyeux d'être sauvé. Mais c'est ce que nous devrions, en fait, ressentir, même aujourd'hui. Vous savez que le culte que nous faisons, vous savez, le culte n'est pas seulement le dimanche matin, le culte, on peut avoir aussi chaque jour de notre vie, c'est chaque fois où nous rencontrons le Seigneur, c'est un culte. Et le culte n'est pas un spectacle où on observe celui qui prêche ou un spectacle où on écoute la louange le dimanche matin. Mais c'est un moment où on meurt devant Dieu. C'est un moment où notre pensée charnelle se brise complètement. C'est un moment où on reçoit la parole de Dieu qui indique comment vivre dans ce monde hostile à Dieu. Si on ne meurt pas au péché, le culte ne pourra jamais nous transformer et Et ce culte que nous faisons resterait juste un rite religieux. Deuxième sacrifice que j'aimerais vous lire, c'est dans Lévitique 2. Si vous avez la Bible, on va lire les deux premiers versets. Alors, le premier sacrifice, c'était l'holocauste. Le deuxième sacrifice, c'est l'offrande en don ou l'offrande végétale, que j'aimerais vous lire dans Lévitique 2, versets 1 et 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Jusqu'ici notre lecture. Ça va ? C'est pas trop difficile. Ça va encore. Voilà, on voit une deuxième sorte d'offrande. Ce n'est pas une holocauste, on ne brûle pas tout. Mais c'est une offrande qu'on pouvait apporter au Seigneur tous les jours, dans la vie courante. Les végétaux n'étaient pas donnés tels quels. On voit bien ici qu'il fallait écraser les végétaux, broyer, pour être transformés en poudre. De même, je pense que nous devons aussi nous aussi broyer notre pensée charnelle, notre pensée égocentrique, et remettre toutes les mauvaises choses au Seigneur qui nous purifie. Le culte béni ne se fait pas tout seul. Vous savez qu'il faut un orateur, un président, il faut aussi quelqu'un qui fait le ménage, il faut quelqu'un qui fait aussi l'accueil. Il faut quelqu'un qui puisse aussi diriger la musique avec des instruments, etc., etc. Tout cela, bien sûr, il faut les remettre entièrement au Seigneur. Et ce qui est intéressant dans cette offrande végétaux, il versera de l'huile dessus. Dans nos services, dans nos pensées, il faut que l'huile soit dessus. L'huile est souvent symbole de Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit soit là. Il faut que l'Esprit nous anime, nous guide pour que ce service soit agréable. Et puis, il y ajoutera de l'encens. Souvent, l'encens, c'est quoi ? L'encens est souvent comparé avec la prière qui monte. Un moyen de purification aussi. Il y a plusieurs significations, mais moi, j'aimerais dire, c'est surtout la prière. Voilà, la prière, la purification, etc., qui permet justement de rencontrer le Seigneur plus sereinement. Tous les services ne doivent pas être un sujet de gloire pour soi-même, par exemple pour le culte, mais au contraire, il faut servir Dieu en toute humilité. En Matthieu 6, il est dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, quoi que nous fassions pour le Seigneur, il faut faire ça avec humilité. Lors donc, tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Que cette offrande que nous lui dédions puisse être faite de cette manière, dans l'humilité, mais aussi dans la discrétion. Encore la question que je me pose, c'est, sommes-nous vraiment des participants ou des spectateurs du culte ? Troisième sacrifice, c'est dans chapitre 4, Lévitique. C'est le sacrifice de l'expiation, chapitre 4, à partir de verset 27 jusqu'au 31. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, il répandra tout le sang au pied de l'autel, le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Voilà le sacrifice de l'expiation. Ce sacrifice se faisait dès que la personne se souvient de ses fautes, sans attendre le jour de sacrifice. Vous savez, le sacrifice holocauste, c'était une fois peut-être par an. Par exemple, le jour de grand pardon, Yom Kippour, où chacun venait régulièrement pour le... Mais ce sacrifice de l'expiation, on pouvait faire à tout moment, lorsqu'on se souvient de notre péché. On n'attend pas jusqu'à ce que, voilà, le jour de grand pardon arrive. Mais on pouvait faire dès qu'on se souvienne. Et ce genre de choses, on voit aussi dans les personnages bibliques. Par exemple, le roi David a dû faire ce sacrifice de l'expiation. Vous savez, vous connaissez l'histoire de David. Alors qu'il est devenu roi, il commet l'adultère avec la femme d'Uri, hein, donc Bathsheba, et il va jusqu'au commanditer le meurtre du mari, Uri. Pourtant, ce Uri était fidèle, serviteur. Et face à cet événement, cette injustice, le prophète Nathan vient dans un endroit public pour accuser David de ses péchés. Et c'était un endroit ouvert. Tous ces sujets étaient présents. Et devant cette accusation, devant tout le monde, David n'a pas songé à sa réputation, ni à sa fierté personnelle, mais il n'a pas non plus essayé de punir ce prophète Nathan qui l'accusait de péché, mais au contraire, il s'est repenti immédiatement. Là, on peut voir qu'il a fait un sacrifice de l'expiation. Ensuite, on voit dans Psaume 51 toute une prière de demande de pardon. Et on voit que voilà, c'était vraiment sa vie même était un sacrifice d'expiation. Lorsqu'il péchait et qu'il comprenait tout de suite que c'était un péché, ben, il demandait tout de suite pardon au Seigneur. Et c'est ce que nous devrions faire aussi. Cet exemple de sacrifice de l'expiation devrait nous inspirer pour que nous puissions venir au culte quotidiennement devant le Seigneur pour demander pardon. Parce que, comme je vous avais dit au début de cette prédication, la repentance est primordiale, pour une condition primordiale pour rencontrer le Seigneur. Et c'est comme ça que nous pouvons devenir des adorateurs de l'Éternel. Quatrième sacrifice, c'est dans Lévitique 6. Ça va? C'est pas trop ennuyeux, hein? Je me suis dit, ça pourrait être ennuyeux, mais c'est pas grave. On peut quand même apprendre pas mal de choses. Quatrième sacrifice, c'est le sacrifice de réparation ou de culpabilité. C'est à partir de verset 2 jusqu'au verset 7. Mais je ne vais pas vous lire. Enfin, vous pouvez lire à la maison. C'est un sacrifice qui ressemble au sacrifice d'expiation. C'est une demande de pardon pour les péchés. La différence est que ce sacrifice concerne le péché de vol. Le péché de vol qui peut être réparé. Le remboursement est possible. Et apparemment, d'après ce verset, il faut rajouter un intérêt de 20%. Si vous avez volé, non seulement vous devez restituer ce que vous avez volé, mais ajouter encore 20% en compensation. Et non seulement vous avez réparer à l'égard de celui à l'égard de celui qui, à qui vous avez volé, mais aussi il fallait faire aussi un sacrifice à Dieu pour demander pardon. C'est voilà, vous avez commis un tort et vous demandez pardon à la personne, mais aussi à Dieu. C'est toujours dans ce sens que ça se passe. Est-ce que cela nous concerne encore aujourd'hui? Bien sûr. Le plus important est de demander pardon et de réparer l'acte commis, se repentir et dédommager la personne pour la paix. Si en tout cas, si on peut dédommager. Si financièrement on ne peut pas rembourser, on ne peut pas rembourser de ce que nous avons volé, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on sache que Dieu se préoccupe plus de la relation humaine que de l'argent. Si on n'a pas la capacité pour rembourser immédiatement, on peut tout simplement demander pardon à la personne, expliquer sa situation franchement et rétablir la relation en premier lieu. Cela demande beaucoup de sacrifices et il faut prendre sur soi. Mais une fois que nous avons mis l'honnêteté en pratique, Dieu nous aidera dans cette situation pour rétablir la relation et permettre le remboursement. Dans le personnage biblique aussi, on voit cet événement. Par exemple, lorsque Paul a été emprisonné, il rencontre un certain Onésime qui accepte le Christ. Onésime, c'est qui? C'était un ancien esclave. Paul apprend qu'il était un esclave de Philémon et qu'il lui devait pas mal d'argent. Alors, en apprenant cette nouvelle, Paul lui recommande donc à Onésime d'aller vers Philémon pour demander pardon. Or, retourner vers son maître était un acte difficile, car à cette époque-là, un esclave en fuite pouvait être mis à mort si le maître portait plainte. Mais Paul demande à Onésime de retourner quand même auprès de son maître Philémon et de réparer ses fautes commises en même temps. Et puis il demande aussi à Philémon, il écrit aussi une lettre à Philémon pour lui demander de pardonner Onésime et de le considérer comme Paul lui-même. Dans le même temps, il se porte garant pour lui. Voilà, c'est intéressant, hein? Paul, on voit cette sacrifice de réparation, même à l'époque du Nouveau Testament, où on voit que Dieu se préoccupe des relations brisées. C'est vrai que si nous avons volé, ou si nous avons fait du mal, alors qu'on pourrait réparer, ben, la relation est coupée. Et si surtout ça se passe entre frères et sœurs, c'est encore d'autant plus grave. Mais Dieu veut, à travers ce sacrifice de réparation et de culpabilité, veut nous montrer qu'il se préoccupe de la relation. Il veut vraiment rétablir, il veut nous faire réconcilier entre des frères et sœurs avec qui nous avons des différends. Est-ce que nous avons des différends d'ailleurs avec un des frères de l'Église ou de lointain? Il est absolument primordial de songer à réparer cette relation cassée. Cinquième sacrifice, c'est dans Lévitique, chapitre 7. C'est le sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. J'aimerais vous lire quand même, à partir du verset 15. La chair de sacrifice, du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira. Et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une offrande, une chose infecte. Et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Voilà. Cinquième sacrifice, c'est le sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Vous êtes tellement joyeux de la bénédiction reçue, vous faites ce sacrifice à tout moment de l'année. La particularité de ce sacrifice est le partage. Jusqu'à maintenant, à part l'Holocauste qui est, où tout est brûlé, les restes étaient donnés aux sacrificateurs, que ce soit l'offrande végétale ou le sacrifice d'expiation ou le sacrifice de réparation. Mais le sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce était différent. On brûlait les graisses à Dieu, et à part certaines parties réservées aux sacrificateurs, la majorité du sacrifice était consommée par la personne même qui donnait à Dieu, et aussi avec ses proches, et aussi avec ses amis, avec toutes les personnes qui étaient tout autour. Ce sacrifice était réalisé comme une fête lors de laquelle tout le monde se réjouissait. Il y avait cependant une condition, ce que nous venons de lire. Il fallait manger toute cette viande en une seule journée, si c'est possible. Ou deux, s'il s'agissait de l'accomplissement d'un vœu ou d'une offrande volontaire. Ce qui n'a pas été mangé le troisième jour, on les brûlait pour donner à Dieu. Et si cela n'était pas respecté, alors le sacrifice devenait caduque. Et cela représentait une faute punie par Dieu. Pourquoi ? Pourquoi tous ces règlements ? Vous savez, au moment du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce, il y avait énormément de viande. Vraiment beaucoup, beaucoup de viande à partager. Et s'il n'y avait pas de ce genre de règlement, les gens auraient mangé pendant des jours, seuls ou seulement en famille. Mais Dieu veut qu'on partage avec les autres, que tout le monde mange, profite ce moment festif. Et défendre qu'ils mangent seulement entre eux, il a mis cette loi. Il faut les manger en une seule journée, toutes ces viandes, ou en deux maximum. Et c'est comme ça que, du coup, les gens étaient obligés, en quelque sorte, entre guillemets, d'inviter les amis, les proches, mais aussi les gens qu'ils ne connaissent pas, pour participer à cette fête, à ce sacrifice de reconnaissance. Et du coup, même les pauvres avaient des occasions de manger de la viande. C'est super. On voit bien que Dieu se préoccupe même des pauvres, surtout des pauvres. Et que là, à travers le sacrifice de reconnaissance, on voit, bien sûr, il agrée cette reconnaissance, cet acte de remerciement, mais il veut que, à travers cet acte aussi, les gens profitent et partagent cette joie immense entre les frères et sœurs. Est-ce que nous partageons aussi la joie avec nos frères et sœurs? Le partage est aussi important. Notre Église a pour but aussi de partager. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le vestiaire et il y a aussi la banque alimentaire. Vous savez qu'il y a toujours une banque alimentaire disponible à tout le monde pour ceux qui n'ont pas, en tout cas, qui ont le fin de mois difficile. Donc sachez que vous pouvez, je vous rappelle, vous pouvez remplir la banque alimentaire qui va être grandie puisque maintenant la vie pratique est arrêtée. Vous savez, chaque mardi, il y avait des vies pratiques. Et maintenant que vie pratique a arrêté, l'étagère de banque alimentaire va agrandir. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Il faut apporter plus de nourriture et que ça va profiter à plus de personnes. Parce que je sais que certaines personnes n'osent pas parce qu'en voyant le peu d'aliments qui restent, donc ils n'osent pas trop. Mais je pense que c'est important aussi qu'on ait en abondance les nourritures qu'on pourrait partager avec nos frères et sœurs. Voilà. Donc chaque dimanche matin, si vous pensez, ramenez une boîte de conserve, pour pouvoir partager aussi avec les autres. Manger la viande avec les pauvres, voilà ce que Dieu se préoccupait. Dieu aime que nous agissions avec amour les uns avec les autres. en sentiment et aussi en acte. On peut dire, oui, nous t'aimons, je prie pour toi, mais en acte aussi. Oui, bon, prière, c'est en acte aussi, mais on peut vraiment dire, oui, nous t'aimons en parole. Pas seulement en parole, mais en acte. C'est comme ça que nous pouvons être vraiment des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Et c'est comme ça que nous pouvons être des... Enfin, nous avons vu en tout cas comment on adorait Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Et nous avons constaté que le sens des sacrifices n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la victime expiatoire, bien sûr. C'est Jésus qui est mort une fois pour toutes, pour toute l'humanité. Il a accompli ainsi tous les sacrifices. Donnons-nous alors nous-mêmes à Dieu par Jésus-Christ. C'est là le sacrifice que Dieu attend de nous. Par notre foi en Jésus, nous sommes justifiés. Par notre foi en Jésus, nous pouvons accomplir tous ces sacrifices. C'est vraiment quelle grâce. J'aimerais vous lire dans Hébreux 7, verset 26-27, en parlant de Jésus. « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. » Jusqu'ici notre lecture. Oui, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu désire qu'on vienne à lui, mais il y a toujours des conditions respectées, parce que Dieu est saint et que nous sommes pécheurs, que nous puissions vraiment avoir un esprit de repentance et venir passer par la foi en Jésus, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, nul ne vient au Père en passant que par Jésus-Christ, en passant par Jésus-Christ. Et que nous puissions ainsi aimer notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, en demandant de l'aide au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci aussi pour tous ces sacrifices où tu nous demandes de venir vers toi avec cet esprit de repentance, avec cet esprit d'humilité. Que nos pensées charnelles disparaissent, soient broyées complètement. Que nous puissions vraiment venir vers toi, non seulement avec nos paroles, mais aussi avec nos actes, nos sentiments. Seigneur, oui, aide-nous aussi, comme tu nous as montré à travers ces sacrifices, l'esprit de partage, aide-nous à partager aussi cet amour que tu nous as reçu, que tu nous as donné avec ceux qui nous entourent. Merci encore pour ta bienveillance à notre égard. Merci aussi parce qu'à travers tous ces rites, nous comprenons pourquoi Jésus est venu se sacrifier pour nous, une fois pour toutes, pour notre salut, pour notre vie, pour la vie éternelle. Et nous voulons vraiment te remercier pour cela. Seigneur, aide-nous vraiment à vivre cette rencontre personnelle, intime, avec toi, non seulement le dimanche matin, mais aussi quotidiennement. On voit bien ici que les gens, à l'époque de l'Ancien Testament, les gens pouvaient venir à toi à tout moment de l'année, même tous les jours, pour te rencontrer. Seigneur, maintenant que nous avons ce privilège de te rencontrer à tout moment et à tout lieu, que nous puissions vraiment, Seigneur, profiter de cette bénédiction que tu nous as donnée. Merci encore pour ta présence. Nous te louons pour tes bienfaits. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen.